20.
Jérôme,
appelle Oli.
M'entends-tu toujours?
Oui.
Je veux que tu éteignes ce zapit et que tu le poses sur le bureau de Bill.
Puis, comme elle est le genre de fille à ne rien laisser au hasard, elle ajoute.
Écran vers le bas.
Un pli barre le large front de Jérôme.
Je suis obligé? Oui, tout de suite, et sans regarder ce satané machin.
Avant que Jérôme ait pu obtempérer, Hodges a un ultime aperçu des poissons qui nagent et d'un nouvel éclair bleu. Un étourdissement passager, causé ou non par ses antidouleurs, le déstabilise. Puis Jérôme pousse le bouton marche-arrêt sur le dessus de la console et les poissons disparaissent. Ce n'est pas du soulagement que Hodges ressent, mais de la déception. C'est peut-être fou, mais compte tenu de ses problèmes de santé actuels, peut-être pas tant que ça. Il a vu l'hypnose utilisée de temps à autre sur des témoins pour les aider à mieux se souvenir. Mais il n'en a jamais saisi le plein pouvoir jusqu'à cet instant. L'idée lui vient, sans doute blasphématoire vu les circonstances, que les poissons du zapit pourraient mieux soulager la douleur que les drogues prescrites par le docteur Stamos. Holly annonce.
« Je vais compter à rebours, Jérôme, de 10 à 1. Chaque fois que tu entendras un chiffre, tu seras un peu plus réveillé, ok ?»
Pendant quelques secondes, Jérôme ne dit rien. Il est assis calmement, paisiblement, voyageant dans une autre réalité et cherchant peut-être à décider s'il aimerait y vivre de façon permanente. Holly, quant à elle, vibre comme un diapason et Hodges serre les poings au point de sentir ses ongles mordre dans ses paumes. Enfin, Jérôme dit
« Ok,
oui, puisque c'est toi, Oliberi.
On y va. 10, 9, 8. Tu reviens, Jérôme. 7, 6, 5. Tu te réveilles. »
Jérôme lève la tête. Ses yeux sont braqués sur Hodges, mais Hodges n'est pas sûr que le garçon le voie.
4, 3. Tu y es presque. 2, 1. Réveille-toi.
Elle claque une fois dans ses mains. Jérôme sursaute violemment. De la main, il balaie le zapit de Dina et l'expédie par terre. Il dévisage Holly avec une mine effarée qui serait amusante en d'autres circonstances.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Je me suis endormi?
Holly s'affale dans le fauteuil réservé d'ordinaire aux clients. Elle inspire profondément et essuie ses joues moites de sueur.
En quelque sorte, dit Hodges, le jeu t'a hypnotisé, comme il a hypnotisé ta sœur.
Vous en êtes sûr?
Demande Jérôme.
Il consulte sa montre.
J'imagine que oui.
J'ai perdu 15 minutes sans m'en rendre compte.
Plutôt 20. De quoi te souviens-tu?
D'avoir attrapé les poissons roses qui se transformaient en chiffres. C'est étonnamment dur à faire.
Il faut observer attentivement, se concentrer vraiment, et les flashs bleus n'aident pas.
Hodges ramasse le zapit par terre.
Je ne l'allumerai pas si j'étais toi,
dit vivement Holly.
Pas l'intention de le faire, mais je l'ai fait hier soir, et je peux vous garantir qu'il n'y avait aucun flash bleu. Et tu pouvais taper sur des poissons roses à en avoir mal aux doigts sans qu'ils se transforment en chiffres. Et la musique a changé. Pas trop, mais un peu.
Holly entonne, parfaitement dans le ton.
À la mer, près de la magnifique mer, toi et moi, oh, comme nous serons heureux. Ma mère me l'a chanté quand j'étais petite.
Jérôme la dévisage avec plus d'intensité qu'elle ne peut supporter, et elle détourne le regard en rougissant.
Quoi? Qu'est-ce qu'il y a?
Il y avait des paroles, mais c'était pas ça.
Hodges, lui, n'a entendu aucune parole, seulement la musique, mais il ne le dit pas. Holly demande à Jérôme s'il peut se les rappeler. Il n'est pas tout à fait dans le ton comme elle, mais il chante quand même assez juste pour les convaincre que oui, c'est bien la mélodie qu'ils ont entendue.
« tu peux dormir, d'un magnifique sommeil. »
Il s'interrompt.
« C'est tout ce que je me rappelle. Si j'invente pas, cela dit. »
Holly commente.
« Maintenant, nous pouvons en être sûrs. Quelqu'un a dopé la démo du fichinol. »
Dopé aux stéroïdes, ajoute Jérôme. Si vous pouviez m'expliquer, dit Hodges.
Jérôme adresse un signe de tête à Holly et elle enchaîne.
un programme furtif a été chargé dans la démo déjà légèrement hypnotique à la base. Le programme était inactif quand Dina s'est servie de son zapit, et toujours inactif quand tu l'as regardé hier soir, Bill. Heureusement pour toi. Mais quelqu'un l'a activé depuis.
Babino ? Lui ou un autre ?
Si la police a raison et que Babino est mort. Ça pourrait aussi être un pré-réglage,
dit Jérôme à Holly, puis se tournant vers Hodges.
Tu sais, comme une alarme de réveil. Si je comprends bien, dit Hodges, le programme était là depuis le début, mais il n'a été activé qu'ensuite, quand le zapit de Dina a été allumé aujourd'hui.
Oui, c'est ça, dit Holly. Il doit y avoir un répéteur de signal quelque part. Qu'en penses-tu, Jérôme ?
Ouais, je pense aussi. Un programme qui fait des mises à jour en permanence et attend qu'un ballot, moi en l'occurrence, allume son zapit et active la Wi-Fi. Et ça pourrait se produire avec tous les zapits ?
Oui, bien sûr, dit Jérôme, si le programme furtif a été placé dans tous.
C'est Brady qui a monté le coup.
Hodges commence à faire les 100 pas, sa main se portant instinctivement à son flanc, comme pour contenir la douleur et l'empêcher de sortir.
Cet enculé de Brady Hartsfield.
Comment ?
Demande Holly.
J'en sais rien, mais y a que ça qui colle. Il essaye de faire péter le Mingo pendant le concert. On l'en empêche. Le public, des gamines pour la plupart, est sauvé.
Par toi, Holly, précise Jérôme. Tais-toi, Jérôme. Laisse-le raconter.
Les yeux de Holly suggèrent qu'elle sait où Hodges veut en venir.
6 ans s'écoulent. Ces gamines, écolières ou collégiennes en 2010, sont maintenant au lycée. Certaines même en fac. Les Round Here n'existent plus depuis longtemps. Et ces jeunes filles sont devenues des jeunes femmes. Elles ont évolué vers d'autres styles de musique. Mais voilà qu'on leur fait une offre qu'elles ne peuvent refuser. Une console de jeu gratuite. Et tout ce qu'elles ont à faire, c'est prouver qu'elles étaient au concert des Round Here ce soir-là. Cette console doit leur paraître aussi démodée qu'une télé en noir et blanc, mais bah, puisqu'elle est gratuite.
Oui, renchérit Holly. Brady en avait encore après elle. Voilà sa revanche, mais pas seulement contre elle. C'est sa revanche contre toi, Bill.
Donc, je suis responsable, se dit sombrement Hodges. Mais que pouvais-je faire ? Qu'aurions-nous pu faire tous les trois ? Il allait faire sauter cette salle de spectacle. Babino, sous le nom de Myron Zakim, a acheté 800 de ses consoles. Ça peut être que lui, parce qu'il est blindé. Brady était fauché. Et je doute que Biblial ait pu avancer ne serait-ce que 20 000 $ sur sa pension de retraite. Ces consoles sont dans la nature maintenant. Et si elles sont toutes dopées par ce programme dès qu'on les allume...
Attends une minute, reviens en arrière, demande Jérôme. T'es vraiment en train de dire qu'un neurochirurgien respecté s'est laissé embarquer dans cette saloperie ?
Ouais, c'est bien ce que je dis. Ta sœur l'a reconnu formellement. Et nous savons déjà que le neurochirurgien respecté utiliser Brady Hartsfield comme un rat de laboratoire.
Mais maintenant Hartsfield est mort, dit Holly. Reste Babino, qui est peut-être mort lui aussi.
Ou pas, dit Hodges. Il y avait du sang dans sa voiture, mais pas de corps. Ce serait pas la première fois que l'auteur d'un crime mettrait fictivement en scène sa propre mort.
Il faut que je vérifie quelque chose sur mon ordinateur, dit Holly. Si un nouveau programme est apparu aujourd'hui sur ces appits gratuits, alors peut-être que...
Elle se dépêche de sortir. Jérôme commence à dire
« Je comprends pas comment un truc pareil est possible, mais... » « Babino saura nous le dire, » termine Hodges, « s'il est encore en vie. »
« Oui, mais attends une minute. Barb a parlé d'une voix qu'elle a entendue qui lui racontait tout un tas d'horreurs. Moi, je n'ai entendu aucune voix et j'ai absolument aucune envie de me foutre en l'air. »«
Peut-être que t'es immunisé. »
« Non, je le suis pas. » J'étais happé par l'écran, Bill. Je suis parti loin. J'ai entendu des mots dans la petite musique. Et je crois qu'il y avait aussi des mots dans les flashs bleus, comme des messages subliminaux. Mais aucune voix.
Il pourrait y avoir toutes sortes de raisons à cela, se dit Hodges. Et ce n'est pas parce que Jérôme n'a pas entendu la voix du suicide que la majorité des gamins qui ont reçu ces appits gratuits ne l'entendront pas.
Imaginons que ce répéteur n'ait été activé qu'au cours des 14 dernières heures, dit Hodges. On sait que ça peut pas être avant le moment où j'ai essayé le jeu de Dina, sans quoi j'aurais vu les poissons chiffres et les flashs bleus. Donc, voici ma question. Est-ce que l'écran de cette démo peut être dopé même quand le jeu est éteint ?
Non, impossible, dit Jérôme. Il faut qu'il soit allumé. Mais une fois qu'il l'est...
Il est en service !
Hurle Holly.
Ce touffu Sid The End est en service !
Jérôme se précipite pour la rejoindre à son bureau. Hodges suit plus lentement.
Holly monte le son de son haut-parleur et la musique envahit les bureaux de Finder Keepers.
Ce n'est pas « By the Beautiful Sea » cette fois, mais « Don't Fear the Reaper »,« Ne craignez pas la faucheuse » des Blue Oyster Cult.
Tandis que les paroles se dévident, 40 000 hommes et femmes chaque jour, encore 40 000 à venir tous les jours, Hodges voit un salon funéraire éclairé de cierges et un cercueil enseveli sous les fleurs. Au-dessus, de jeunes hommes et femmes souriants passent et repassent, allant d'un bord à l'autre, se croisant, s'estompant, réapparaissant. Certains disent au revoir de la main, d'autres font le signe de la paix. En dessous du cercueil figure une série de messages dont les lettres se dilatent et se contractent, comme un cœur qui bat lentement. La fin de la souffrance, la fin de la peur, plus de colère, plus d'angoisse, plus de bagarre, la paix, la paix, la paix. Puis, une série de flashs bleus stroboscopiques. Incrustés à l'intérieur, il y a des mots. Ou, autant leur donner le nom qu'ils méritent, se dit Hodges, des gouttes de poison.
Éteins ça, Holly.
Hodges n'aime pas la façon qu'elle a de regarder l'écran. Ce regard aux yeux dilatés si semblable à celui de Jérôme il y a quelques minutes. Holly ne réagit pas assez vite au goût de Jérôme. Il tend le bras par-dessus son épaule et force son ordinateur à s'éteindre.
« Tu n'aurais pas dû faire ça !» s'insurge Holly. « Je risque de perdre des données !»«
C'est exactement l'objectif de cette saloperie de site !» réplique Jérôme. « Te faire perdre tes données !»« Te faire perdre la boule !»
J'ai pu lire le dernier message, Bill, dans le flash bleu. Ça disait « Fais-le maintenant !»
Holly hoche la tête.
Il y en avait un autre qui disait « Partage en ligne avec tes amis !»
Est-ce que les apites les dirigent vers ce... « Ce truc ?» demande Hodges.
« Pas besoin, » répond Jérôme. « Parce que ceux qui le trouvent, et ils vont être nombreux, y compris des gamins qui n'ont jamais reçu de zapit gratuit, vont répandre la nouvelle via Facebook et le reste.
« Il a voulu déclencher une épidémie de suicide, » dit Holly. « Il s'est débrouillé pour mettre le processus en route, puis il s'est suicidé. »
« Sans doute pour arriver de l'autre côté avant eux, » dit Jérôme. « Les accueillir à la porte ?»
Hodges reprend.
« Suis-je censé croire qu'une chanson rock et une photo d'enterrement vont pousser des jeunes à se suicider ?»« Les apides, d'accord, je peux accepter, j'ai vu comment ça marche. Mais ça !»
Holly et Jérôme échangent un regard que Hodges n'a aucun mal à interpréter. Comment lui expliquer ? Comment expliquer un rouge-gorge à quelqu'un qui n'a jamais vu d'oiseau ? Leur regard seul suffirait presque à le convaincre.
Les adolescents sont sensibles à ce genre de choses. Dit Holly. Pas tous, certes, mais beaucoup. Je l'aurais été quand j'avais 17 ans.
Et c'est contagieux, dit Jérôme. Une fois que ça commence, si ça commence,
il termine avec un haussement d'épaule.
Nous devons trouver cet engin, ce répéteur, et l'éteindre, dit Hodges. Limiter les dégâts.
Il est peut-être chez Babino, dit Holly. Appelle Pete, demande-lui s'il y a du matériel informatique là-bas. Si oui, demande-lui de tout débrancher.
S'il est avec Izzy, je vais tomber sur sa boîte vocale, dit Hodges.
Mais il appelle quand même, et Pete répond à la première sonnerie.
Il informe Hodges qu'Izzy est retourné au commissariat avec les skids, attendre les premiers rapports du légiste. Biblial a déjà été emmené en garde à vue par les premiers flics arrivés sur les lieux, qui se verront attribuer une part du mérite. Pete a la voix lasse.
On s'est engueulé, Izzy et moi. Méchamment. J'ai essayé de lui dire ce que tu m'as dit quand on a commencé à bosser ensemble. Que c'est l'affaire qui commande, et qu'on doit aller où elle nous mène. Pas d'esquive, pas de déni, on s'en empare et on remonte le fil rouge jusqu'à son origine. Elle est restée là à m'écouter, les bras croisés, en hochant la tête de temps en temps. Je pensais vraiment avoir réussi à me faire entendre. Et puis tu sais ce qu'elle me demande ? Si je peux lui dire la dernière fois qu'il y a eu une femme à la direction de la police municipale. Je réponds que non, et elle me dit que c'est parce que la réponse, c'est « jamais ». Et elle me sort que la première, ce sera elle. Oh mec, moi qui croyais la connaître.
Pete lâche le rire le plus sinistre que Hodges ait jamais entendu. « Je la croyais engagée dans la police !» Hodges compatira plus tard s'il a le temps. Là, il l'a pas. Il pose la question concernant le matériel informatique.
« On n'a rien trouvé, à part un iPad avec une batterie morte, » dit Pete. « Everly, la femme de ménage, dit qu'il avait un ordinateur portable dans son bureau quasiment neuf, mais il n'y est plus. »
« Comme Babino, » commente Hodges. « Il l'a peut-être avec lui. »«
Peut-être. »
« Souviens-toi, Kermit, si je peux t'aider, je t'appellerai. Fais-moi confiance. »
Il veut bien accepter toute l'aide qu'on pourra lui apporter. 21. Avec la fille appelée Hélène, le résultat est rageant, exactement comme avec cette salope de Robinson. Mais Brady se calme enfin. Ça a marché. C'est ce qu'il doit se dire. La faible hauteur de la chute, associée à la congère qu'il a amortie, n'était qu'un coup de malchance. Il en chopera plein d'autres. Il a beaucoup de travail en perspective, beaucoup d'allumettes à gratter. Mais une fois que le feu brûlera, il pourra se détendre et observer. Ça brûlera jusqu'à épuisement, faute de combustible. Il démarre la voiture de Z-Boy et quitte l'aire de repos. Alors qu'il intègre la circulation clairsemée qui monte vers le nord par l'I-47, les premiers flocons tourbillonnent dans le ciel blanc et frappe le pare-brise de la Malibu. Brady accélère. Le tas de boue de Z-Boy n'est pas équipé pour affronter une tempête de neige. Et dès qu'il aura quitté l'autoroute, l'état de la chaussée empirera. Il doit prendre le mauvais temps de vitesse.
« Ah, pas de problème, » pense Brady.
Et un grand sourire lui vient, en même temps qu'une merveilleuse idée. Peut-être que Hélène est paralysée à partir du cou, une tête sur un piquet, comme la Stover. C'est peu probable, mais c'est possible. Un agréable rêve éveillé pour rendre la route moins longue. Il allume la radio, se trouve un bon Judas Priest et monte le son. Comme Hodges, il aime les trucs qui déménagent.